Et voici le journal de Rosalie Lafarge. Bonjour Rosalie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Elle se dit effondrée, horrifiée. La ministre de la Santé Agnès Buzyn dénonce une faute lourde après la mise au jour d'un essai clinique sauvage. Ça se passe dans une abbaye près de Poitiers. On y revient dès le début de ce journal.
La compagnie aérienne XL Airways dans la tourmente. Elle demande à son tour son placement en redressement judiciaire.
Analyse des mots de l'aérien français avec Hakim Kasmi. Il y pense à la présidentielle. Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, l'a avoué hier soir sur France 2. Xavier Bertrand, le bavard du Sérail. Ce sera le billet politique de Frédéric Saïs juste après journal.
La planète se mobilise pour le climat. 5000 événements sont prévus aujourd'hui à travers le monde. C'est la troisième grève mondiale pour le climat.
Et nous irons prendre la température en Allemagne. Et puis nous serons également en Algérie à quelques heures de nouvelles manifestations. Son ampleur est inédite. Au moins 350 malades atteints de Parkinson ou Alzheimer auraient subi un essai clinique sauvage dans une abbaye. Essai interdit par l'agence du médicament hier. Des molécules aux effets inconnus ont été testées hors de tout cadre légal. Et la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, se dit elle-même
effondrée, horrifiée, et il y aura des sanctions et des poursuites. La loi est très claire sur les essais cliniques en France, elle est remarquablement encadrée. Les Français qui rentrent dans un essai clinique ont toutes les informations nécessaires, la régulation est très stricte, et que des professionnels de santé, si on peut encore les appeler comme ça, se permettent de faire des essais cliniques sans la régulation nationale, je pense que c'est une faute lourde, une faute grave, et nous verrons quelles sanctions peuvent être prises.
L'essai était mené par une structure baptisée Fonge Josepha, dont le vice-président est le professeur Henri Joyeux, contesté depuis longtemps dans la communauté médicale. Et lui l'assure, ce n'était pas un essai clinique.
Il s'agit, si vous voulez, d'une découverte importante publiée à l'Académie de pharmacie par mon collègue le professeur Fourtillon, qui a découvert une hormone qui est la régulation de la veille et du sommeil. Et cette hormone a incontestablement un intérêt extrêmement important pour l'avenir des traitements concernant les problèmes du sommeil, de l'Alzheimer, du Parkinson. Je ne peux pas vous dire plus que cela. L'ANSM est parfaitement au courant. Ce n'est pas un essai clinique, je vous le répète. Donc, ça ne peut pas être un essai clinique sauvage.
Le pôle santé du parquet de Paris a été saisi. Après Aigle Azur, XL Airways, la compagnie aérienne française, est à son tour en cessation de paiement et cherche un repreneur. Elle a demandé hier son placement en redressement judiciaire. Bonjour Hakim Kasmi.
Bonjour Rosalie Lafarge.
Manifestement, l'aérien français a du mal en ce moment.
Oui, les difficultés d'XL Airways ne datent pas d'hier. La compagnie recherche un repreneur déjà depuis un an. Air France était même sur les rangs. Mais l'aérien n'est pas un secteur très rentable. Les marges sont très faibles. Elles oscillent entre 2 et 5%, d'où la prudence de repreneurs potentiels. À cela, il faut ajouter l'aspect social, car en cas de reprise avant liquidation, les règles en droit social sont très strictes. Les salariés doivent être repris pratiquement aux mêmes conditions, tenant compte notamment des salaires et de l'ancienneté. Ce qui ne veut pas dire que les repreneurs se bousculeront pour autant, Rosalie.
Il faut dire quand même, Hakim, que XL Airways est spécialisé sur le marché des Antilles, et c'est un marché très concurrentiel.
Oui, les marchés dans lesquels s'est lancé XL, à savoir les États-Unis et surtout les Antilles, en faisant du low cost long courrier avec des prix très attractifs et un savoir-faire qui lui permettait jusque-là d'avoir des prix bas, eh bien la demande sur ce marché est très forte et les concurrents sont très nombreux. Il y a par exemple Air France, Air Caraïbes, mais aussi et désormais Levol, une filiale du groupe IAG qui appartient à British Airways. Toutes ces compagnies aujourd'hui font les prix bas avec une différence. Aujourd'hui, Air Caraïbes a des avions flambant neufs, des Airbus A350 qui consomment 20% de carburant moins et qui ont plus de densité avec plus de sièges. Idem pour Air France qui aujourd'hui exploite des Boeing 777, certes plus anciens, mais qui ont 450 sièges par avion, ce qui lui permet de faire du volume et donc de résister face à cette concurrence des prix bas. Enfin, Rosalie, ce qui compte aujourd'hui dans l'aérien, ce sont les alliances, ce que n'a pas XL, mais ce qu'a aujourd'hui Air France avec son hub à Charles de Gaulle, KLM, mais aussi Delta et Alitalia, et ce qu'aura bientôt Air Caraïbes qui s'est lancé aussi sur les États-Unis avec une low-cost américaine comme partenaire, notamment sur San Francisco et demain New York.
Hakim Kasmi du service économique de France Culture, merci beaucoup. Deuxième et dernier jour de procès pour Jean-Luc Mélenchon et cinq de ses proches, des insoumis devant la justice un an après la perquisition mouvementée au siège du parti. On attend les réquisitions aujourd'hui. Le gouvernement au chevet des élus locaux. Après le congrès des petites villes de France, hier, Édouard Philippe est attendu ce matin à celui de l'association des maires ruraux. C'est à Eppe-Sauvage, dans le Nord. À 6 mois des municipales, le gouvernement multiplie les signes d'amabilité en direction des élus, Stéphane Robert, mais les maires, ce matin, attendent plus qu'un beau discours.
Les relations entre les maires et le gouvernement se sont nettement améliorées depuis l'épisode des Gilets jaunes et le grand débat du printemps dernier. Mais les maires ruraux espèrent aujourd'hui plus que des marques de considération et des signes d'amabilité.
Il ne faut pas que non plus on soit dans la calinothérapie.
Michel Fournier, maire des Voivres, dans le département des Vosges.
On ne veut plus se faire balader. Ça fait trop longtemps que la ruralité se fait balader. Et j'irai même plus loin, qu'elle se fait mépriser. Donc maintenant, suffit.
Ce qu'attendent les élus locaux de la part du chef du gouvernement, c'est donc du concret. Combien de maisons médicales? Où? À partir de quand? Combien de maisons de services publics? Qui finance? Bref, ils veulent un calendrier détaillé de l'agenda rural élaboré avec eux juste avant l'été. Et puis le vote de la loi sur le statut de l'élu, promis avant mars 2020. Parce que le risque, dans 6 mois, reprend Michel Fournier, c'est qu'un certain nombre de communes se retrouvent sans candidat aux élections municipales.
Il y a des communes où nous aurons du mal d'avoir le nombre de candidats, ça c'est clair. Et moi, ce qui me fait le plus craindre, c'est qu'une fois que des nouveaux maires seront élus, bon ben les gars, j'ai compris, hein, ça fait un an et demi, maintenant j'ai compris, on n'est qu'emmerdé dans cette histoire-là. C'est pas méchant, hein, mais il y a 8 jours, on m'a téléphoné à 1h30 du matin, pour me dire, oh ben non, Michel, comment ça se fait, j'ai plus de courant. Oui, ben t'as plus de courant, t'attendras le lever du jour. Monsieur le maire, vous avez 2 vaches qui sont lâchées. Ah oui, mais vous avez vu, il est 2h du matin. Ah oui, mais c'est un danger. Ah ben voilà, hein. Ça veut dire qu'on nous appelle pour tout.
Les maires, très sollicités, de plus en plus souvent interpellés, mis en cause, voire agressés. Une enquête réalisée l'an dernier par le Centre d'études de la vie politique française révélait que 55% des maires des communes de moins de 500 habitants envisageait de ne pas se représenter.
Stéphane Robert.
8h06 sur France Culture, la suite du journal de Rosalie. La farge des écoliers du Pacifique et d'Australie ont donné le coup d'envoi tout à l'heure de la 3e grève mondiale pour le climat.
Près de 5000 événements sont prévus à travers le monde. Les jeunes sont particulièrement mobilisés, comme ils le sont depuis des mois. Allons ce matin en Allemagne. Le gouvernement d'Angela Merkel a prévu de faire quelques annonces en fin de matinée. Mais à Berlin, les jeunes n'y croient pas vraiment, Ludovic Piétenu.
Depuis le début de la semaine, les jeunes du mouvement Fridays for Future multiplient les conférences de presse, persuadés comme ici que le gouvernement n'apportera aucune solution sur le climat, uniquement des mots que nous n'accepterons pas. Avec de telles déclarations, ces jeunes Allemands espèrent peut-être faire pression sur la chancelière Merkel pour que le plan climat présenté tout à l'heure soit à la hauteur de leurs espérances. Mais Quangan Pasch, l'un des porte-parole du mouvement, ne se fait aucune illusion.
Ils parlent de la crise climatique, mais ils n'agissent pas comme s'il s'agissait d'une crise, mais plutôt comme une chose parmi d'autres qui va se produire dans 100 ans. Ce n'est clairement pas suffisant. Propose des solutions qui ne permettent pas de respecter l'accord de Paris de 2015. Donc on va échouer face à cette crise climatique. Ils ne font rien pour la régler.
Selon des indiscrétions obtenues par des médias allemands, le gouvernement Merkel pourrait annoncer plus de 40 milliards d'euros d'investissement d'ici à 2023 pour se conformer aux objectifs internationaux à l'horizon 2030. On sera encore là vendredi prochain. On d'ores et déjà prévenu des jeunes de Fridays for Future qui manifestent aujourd'hui. C'est un record dans plus de 450 villes allemandes.
Ludovic Piétenu, correspondant de France Culture en Allemagne. Il n'y a pas que les jeunes qui se mobilisent. Les entreprises s'y mettent aussi. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, accessoirement l'homme le plus riche du monde, a dévoilé hier ce qu'il appelle son engagement pour le climat.
The Climate Pledge.
Avec cet engagement pour le climat, nous voulons remplir les objectifs des accords de Paris avec 10 ans d'avance. Et Amazon est le premier signataire de ce texte. Mais nous ne pouvons arriver à ce but qu'en collaborant avec les autres grandes multinationales, parce que nous sommes liés les unes aux autres, une chaîne de fournisseurs. Alors on doit travailler tous ensemble, nous n'avons pas le choix. Et nous pensons qu'Amazon doit jouer le rôle de modèle, d'exemple pour les autres entreprises. Ce défi est compliqué pour nous, nous avons de très grosses infrastructures, on ne manipule pas seulement de l'information, on livre aussi des paquets, plus de 10 milliards de paquets chaque année. Et donc, on va expliquer aux autres avec beaucoup de conviction que si nous, on peut le faire, alors tout le monde peut y arriver.
Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, avec Gregory Phillips à Washington pour France Culture. Les États-Unis qui disent privilégier une solution pacifique avec l'Iran, déclaration du secrétaire d'État Mike Pompeo. Il est en tournée dans le Golfe après les récentes attaques contre des installations pétrolières en Arabie Saoudite, dont la Maison Blanche accuse Téhéran d'être à l'origine. Et pour la première fois depuis ces attaques, la coalition emmenée par l'Arabie Saoudite frappe les rebelles houthis, rebelles soutenus par l'Iran. Une opération militaire a été lancée cette nuit dans le le sud-ouest du pays, du côté d'Odeïda.
8h09 sur France Culture, la suite du journal de Rosalie Lafarge, un nouveau vendredi de manifestation en Algérie.
Et le contexte est particulièrement tendu, 3 jours après l'annonce d'une élection présidentielle pour décembre. L'armée algérienne a durci le ton avant-hier, elle veut empêcher les manifestants des autres régions de se joindre au cortège d'Alger. Une atmosphère sécuritaire qui inquiète les familles des personnes arrêtées ces derniers mois. Le reportage à Alger de Leïla Berato.
Le fils d'Areski Chalal est détenu depuis le 28 juin parce qu'il portait un drapeau berbère.
On les relâche parce qu'il n'y a pas de délit. Il n'y a pas un délit qui s'appelle port de l'emblème amazigh. Ça n'existe pas.
S'il continue de manifester chaque semaine avec ses autres enfants, Areski Chalal craint que les instructions de l'armée de boucler les accès de la capitale n'allongent la liste des détenus.
Je suis de nature très optimiste, mais je commence à avoir des craintes. Parce que le gendarme aura le droit de vous dire, vous et vos enfants, vous êtes là pour aller manifester.
Le frère de Waïba Kichou a lui été arrêté parce qu'il avait des pancartes dans sa voiture.
Ça veut dire qu'il ne peut même pas s'exprimer. Je ne parle pas spécialement de lui, de tout le monde. Ça veut dire qu'on ne peut même pas écrire sur une feuille blanche ce qu'on pense. C'est grave.
2 jours plus tard, il est incarcéré et sa famille ne peut le voir que dans la prison de El Haraj.
On se disait, mais qu'est-ce qu'on fait là? C'est pas notre place, c'est pas notre milieu. Même mon frère, c'est pas son milieu. C'est un ingénieur.
Waïba, ancienne photographe, est persuadée que d'autres familles seront touchées.
Les arrestations, ça ne va pas s'arrêter là. Alors là, donc avec l'approche des élections, ça m'étonnerait qu'ils vont les relâcher.
Waïba et son mari Omar expliquent qu'ils se sont désormais organisés. Ils ne vont plus manifester ensemble pour qu'au cas où il y ait une arrestation, il reste quelqu'un pour s'occuper de leurs 2 enfants.
France Culture à Alger avec Leïla Berato. Sa chute a marqué le point de départ du printemps arabe. À 83 ans, l'ancien président tunisien Ben Ali est mort hier en exil en Arabie Saoudite. Il devrait être enterré aujourd'hui à La Mecque, selon son avocat. Si Internet était un pays, il serait le 3e plus gros consommateur d'énergie au monde, nous dit Greenpeace. C'est le point de départ du grand reportage de Maxime Tellier à découvrir dès 17h sur France Culture. Il nous emmène dans les infrastructures colossales qui font fonctionner Internet. Et parmi les étapes du voyage, Marseille, carrefour incontournable de nos données. Fabrice Coquillot est le président d'Interxion France qui fait construire un gigantesque data center dans l'ancienne base sous-marine allemande désaffectée du port autonome.
Marseille, depuis 5 ans, suite à un certain nombre de ruptures d'usage et de technologie, est devenu un des hubs principaux mondiaux de tout ce qui est échange de contenu et de distribution Internet et numérique. C'est devenu en moins de 5 ans le 10e nœud de concentration de réseaux et d'échanges à travers le monde. Donc on est vraiment dans une ville monde ici, ce que souvent parfois les Français ou les Marseillais ne savent pas, mais c'est en cours de construction. Je pense même que Marseille grimpera au classement très prochainement parce qu'il y a un atout géographique évident de proximité, de distribution à moindre coût à travers les câbles sous-marins vers l'Afrique, le Moyen-Orient, le sous-continent indien et jusqu'en Asie, même jusqu'en Chine. Et ça, c'est un hub complètement particulier, un peu comme la ville de Singapour, en cours de construction. Interxion facilite ce déploiement. Nous le faisons notre partie, mais nous avons là, avec les data centers, la brique essentielle et fondamentale sur laquelle se construit tout ce monde de l'infrastructure numérique. Et effectivement, il n'y a rien de virtuel.
Dans la tuyauterie d'Internet, des câbles sous-marins au data center en passant par les serveurs, c'est le grand reportage à écouter donc à 17h sur France Culture. Signé Maxime Tellier et réalisé par François-Charles Domergue, il est aussi à retrouver sur franceculture.fr. On le reconnaissait à son nez cassé par son ami Jean-Paul Belmondo ou encore par cet anglais à peine approximatif.
My client.
My client.
My client.
Client.
Client. Would like to see the president of your company. Mr. John Davis.
Dis-moi, Charlot, t'es sûr que tu parles anglais?
Ah oui, parfaitement.
Et tu l'as appris où l'anglais?
Au lycée.
La voix de Charles Gérard, l'acteur, est mort hier. Il avait 96 ans. Second rôle fétiche de Claude Lelouch. Il a tourné une 20aine de films avec le réalisateur. On retiendra par exemple L'aventure, c'est l'aventure, Le voyou ou encore Les uns et les autres. Encore beaucoup de soleil aujourd'hui, sauf peut-être sur le sud où les nuages persistent, avec même quelques orages attendus en fin de journée près de la Méditerranée. Le thermomètre affiche ce matin autour de 15 degrés sur la moitié nord, de 16 à 25 pour la moitié sud, Guillaume Erner.